cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 8 février 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Quelques questions, c'est... Je vais assez vite pour qu'on avance. Vous nous avez dit qu'en éthique chrétienne, on part du constat que Jésus est un homme parfait. Mais ne peut-on pas dire qu'il a manqué de prudence humaine en prêchant à des foules sans avoir de quoi manger ? Je ne dis rien devant ça. Jésus ne vit pas selon notre prudence humaine. Il vient nous faire comprendre que nous sommes fils de Dieu. Être fils de Dieu, ça exige de foncer sur le plafond, dépasser la prudence humaine. Les béatitudes ne sont pas la prudence humaine. Établir un royaume sur la béatitude des pauvres, c'est fou, humainement. Établir une communauté religieuse sur la béatitude des pauvres, c'est fou, humainement. C'est que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Alors, c'est forcé. Ce n'est pas construit sur les vertus morales. C'est basé sur les vertus théologales, ce que nous verrons après. Donc, je ne comprends pas le mystère de Jésus dans une lunette de prudence humaine. C'est dans la foi, dans l'espérance et dans la charité qui viennent transformer la vertu de prudence. Elle n'est pas supprimée, mais elle est approfondie. Elle est élevée, elle est large, elle devient catholique. Donc, voyons les béatitudes, ce n'est pas la prudence humaine. Regardez Jésus dans la lumière des béatitudes. Dans le cours d'éthique chrétienne, vous nous rappelez plusieurs fois, que la grâce ne supprime pas la nature. Très bien, c'est sûr. Comment répondre à ceux qui nient et l'existence de la nature humaine, disant qu'il n'existe qu'une culture humaine ? Et quel est le fondement d'une telle affirmation ? C'est sûr que le cours d'éthique présuppose du moins implique qu'il y a une nature humaine. S'il n'y a pas de nature humaine, il n'y a que des personnes, des individus. Et je ne peux plus établir de morale. J'ai le nouvel âge. Et à chacun sa vérité. Et on recherche la vérité comme un épanouissement parfait de soi-même. Je suis donc dans une vision d'un subjectivisme parfait. C'est là où la philosophie est nécessaire. Vous ne pouvez pas bâtir une éthique humaine sans regarder la nature humaine et sa finalité. Vous ne regardez plus que l'individu. Alors, nous faisons une philosophie pour montrer le bien fondé de la nature humaine, la réalité. Nier la nature humaine, c'est une faute philosophique. Et la philosophie existe. On doit essayer de comprendre ce qu'est la nature humaine. Dans le dernier cours de philosophie éthique, vous nous avez parlé de la béatitude des pauvres. Pouvez-vous nous montrer le lien entre cette béatitude et l'athéisme de Sartre, caricaturant le don de crainte ? Sartre ne regarde pas la nature ni la finalité. Il n'y a plus chez Sartre que la néantisation pour trouver la liberté. Et on nie toute détermination pour pouvoir être libre. Et c'est une liberté qui ne se fonde pas sur l'amour, c'est une liberté tout simplement qui nie les barrières, qui nie toute loi et qui rejette par le fait même toute loi, toute finalité. C'est le primo du néant. Et le primo du néant, évidemment, ne peut pas fonder une éthique. C'est pour ça que vous avez une morale de la situation. Et la morale de la situation, c'est se débrouiller. Plus la situation est difficile, plus il faut se débrouiller. Tandis que nous disons, plus la situation est difficile, plus il faut aimer. Pour avoir la force de dépasser toutes ces luttes et rester soi-même fidèle à la finalité qu'on a choisie comme étant ce qui épanouit pleinement notre nature humaine. Aristote nous dit dans l'Éthique à Nicomaque, vérité et amitié nous sont chers l'un et l'autre. Mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. Dans le Christ, amour et vérité se rencontrent, nous dit le psaume 84. Et saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, nous dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un bronze qui sonne et une cymbale qui retentit. Ce n'est pas non plus la recherche de la vérité, ça. La cymbale qui retentit, c'est tout simplement vivre de la manifestation. Est-ce que pour nous, chrétiens, notre devoir sacré est d'accorder la préférence à la charité, à l'amour ? Humainement, est-ce que cette célèbre parole d'Aristote est vraiment juste. Merci beaucoup. Si on accorde c'est les rapports de la vérité et de l'amour. Nous l'avons vu en métaphysique, en éthique. L'éthique se fonde sur la métaphysique. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'opposition dialectique entre la vérité et l'amour. Il y a au contraire une unité dans l'être. Et très souvent, au nom de la vérité, on peut dire beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité. Et au nom de l'amour, on peut dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment l'amour. Si l'amour est vrai, il n'est jamais contraire à la vérité. Même humainement. Divinement, ils s'unissent. Ça, l'amour et la vérité s'unissent déjà humainement au niveau de la sagesse. Au niveau de la sagesse, il y a une union entre l'amour et la vérité. La preuve, c'est que pour découvrir l'existence de Dieu, faisons appel à l'amour. Nous ne pouvons pas découvrir l'existence de Dieu avec la pure raison. Il faut l'intelligence et l'apport actuel et vrai de l'amour. C'est pour ça que dans le cours sur les preuves de l'existence de Dieu, je me sers de l'amitié. Et ce que ne faisait pas la scolastique. Et la scolastique voulait prouver l'existence de Dieu par la pure raison. Et c'est pour ça que, de fait, beaucoup ont rejeté ça. Si on comprend que c'est l'intelligence qui a une connaissance analogique de Dieu par la présence de l'amour, on peut alors découvrir que la sagesse implique l'intelligence au service de l'amour et l'amour au service de l'intelligence. Et que c'est justement ce qu'il y a de si grand dans la sagesse. La sagesse, ce n'est pas le développement de la raison. C'est le développement de l'intelligence au service de l'amour. Et l'amour au service de l'intelligence. Et cela, c'est le fruit d'une philosophie réaliste qui nous le montre. Alors, je continue. Première béatitude, bienheureux les pauvres, en esprit. Donc, allons jusqu'à la métaphysique, hein. Pauvreté dans ma recherche de l'intelligence. C'est très important. Pauvreté dans la recherche de mon intelligence. Et ne pas considérer mon avoir, la vérité formelle, comme ma fin. Un pauvre, c'est celui qui sait que sa finalité, c'est pas lui. Qu'il n'a pas en lui-même sa propre finalité. Et qu'elle est au-delà de lui. Alors on accepte d'être un petit chien, de prendre son bien à la table de la vérité. C'est très important, et même au point de vue purement philosophique, je crois qu'on ne peut découvrir la vérité, on ne peut découvrir la sagesse, que dans la pauvreté. Socrate le dit. La pauvreté est nécessaire à la découverte de la sagesse. Et très souvent, ceux qui ne découvrent pas la sagesse, c'est parce qu'ils ne sont pas pauvres. Ils ont un avoir intellectuel. Avoir un avoir intellectuel, c'est considérer la vérité formelle comme mon bien suprême. Et oublier que la vérité formelle est mesurée par la réalité vraie. Donc, cette béatitude des pauvres est capitale pour comprendre l'éthique chrétienne. Et elle s'enracine dans quelque chose que le philosophe peut montrer comme nécessaire pour aller le plus loin possible dans la recherche de la vérité. Celui qui s'arrête dans la recherche de la vérité, celui-là, très souvent, pour ne pas dire toujours, manque de pauvreté. De pauvreté dans sa vie intellectuelle. Nous en manquons tous de pauvreté. Si on était vraiment pauvre, on serait saint. Et on en manque tous, mais on le sait. Et on essaie d'être toujours plus pauvre dans cette recherche de la vérité, pour entrer le plus possible dans la sagesse. Alors, les béatitudes suivantes, elles ne dépendent pas de la première, mais elles présupposent la première. Il y a un lien dans les béatitudes. Hein. Heureux les doux, parce qu'ils hériteront de la terre. Parce qu'ils hériteront de la terre. Donc, ils recevront en récompense la terre, la propriété de la terre. Ils la recevront en récompense grâce à la pauvreté. La pauvreté nous rend doux. C'est très net, ça. Parce que la pauvreté nous fait respecter la personne humaine. Et c'est dans la mesure où on respecte la personne humaine qu'on peut être doux. On accepte qu'il n'atteigne pas la vérité aussi loin que nous. Et on ne les accuse pas à cause de ça. Mais on affirme qu'on peut aller plus loin. Et on l'affirme avec beaucoup de douceur, étant donné que c'est dans la pauvreté qu'on sait qu'on a avancé plus loin dans la vérité. Si on atteint profondément la vérité, on sait qu'on est très pauvre, humainement parlant. Oui, il y a un lien entre la pauvreté et la douceur. Quand on est pauvre, on accepte que les autres puissent nous aider. On n'est pas seul à chercher la vérité. Et que tous ceux qui sont nos frères peuvent nous aider. Ils peuvent nous montrer quelque chose à la vérité. Parce que même dans leur incapacité d'atteindre la vérité tout entière, dans leur impossibilité d'atteindre la vérité parfaite, ils nous montrent pourquoi on s'arrête en route. Parce que nous avons toute intelligence. Et c'est curieux qu'aimant la vérité, on ne va pas jusqu'au bout. C'est curieux qu'aimant la vérité, on ne comprend pas que la métaphysique est la seule qui nous conduit à la vérité tout entière, humainement parlant. Chrétiennement parlant, c'est la foi. Et ne pas atteindre la vérité ultime, c'est parce qu'on s'est arrêté en chemin. Et on s'arrête en chemin parce qu'on considère que nous possédons la vérité, alors qu'on ne possède jamais la vérité. Plus la vérité nous possède, plus on est pauvre. parce qu'être possédé par la vérité, ça exige une très grande pauvreté. Être possédé par la vérité, c'est reconnaître que le réel est mesure de notre vérité. Le réel dernier, c'est Dieu. C'est sûr. Et c'est le prochain en tant qu'il a quelque chose que nous n'avons pas. Heureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés. Bon, heureux ceux qui pleurent, hein, qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés. Ah, ça, c'est très important. Le deuil, c'est pas seulement perdre quelqu'un de sa famille. C'est le deuil, c'est perdre quelqu'un qui nous protège. C'est perdre quelqu'un qui, pour nous, est témoin de la vérité. Qui, pour nous, peut nous aider à découvrir la vérité. Donc, c'est le deuil. Parce que la personne sur laquelle on s'appuyait nous est retirée, meurt. Nous ne pouvons plus la voir. Donc, il faut comprendre cela d'une façon très profonde. Heureux ceux qui sont dépouillés de leur soutien. Celui qui était témoin pour eux de la vérité. Alors, parce qu'ils seront consolés, parce qu'ils chercheront le vrai soutien en Dieu. Il y a toujours un danger de s'arrêter au soutien humain. Et si le soutien humain est supprimé, nous sommes obligés de nous appuyer sur Dieu. On est consolé par l'Esprit Saint. On est consolé par le don. Il est bon pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Paraclet. Il faut mettre cette parole de Jésus pour expliquer cette troisième béatitude. Il est bon pour nous, il est meilleur pour nous que Jésus s'en aille. Cette béatitude peut nous sembler à première vue en opposition avec notre épanouissement, humain. Oui, c'est vrai. Mais la béatitude ne peut pas exister au niveau humain. Elle n'existe que lorsque nous avons dépassé ce point de vue humain. Or, quelquefois, le secours, un secours humain trop facile, un secours humain trop humain, arrête, alourdit. Mais une amitié qui ne serait pas une véritable amitié, qui serait une amitié uniquement affective, une amitié de consolation humaine, peut être un handicap terrible et empêcher la liberté intérieure. Et donc, heureux ceux qui sont dans le deuil. On comprend. Heureux ceux à qui Dieu enlève tout soutien humain qui serait trop humain, qui empêcherait à l'homme d'atteindre un bien divin. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Alors, après avoir montré le point de vue de la sagesse par le point de vue de la pauvreté comme une exigence très intérieure et plénière, on nous rappelle que la sagesse ne supprime en rien le point de vue de la justice. Au contraire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est montrer que nous devons avoir un respect toujours plus grand de l'autre dans l'amitié, un respect toujours plus grand de sa vie, du développement de sa vie, au plan spirituel surtout, du point de vue matériel aussi, mais surtout au point de vue spirituel, un respect toujours plus grand de la personne de l'autre. Cela fait partie des béatitudes évangéliques, donc de l'éthique chrétienne. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Alors, le dépassement de la justice, c'est la miséricorde. La miséricorde ne supprime pas la justice, elle la dépasse. Je ne peux pas être miséricordieux dans la justice, en ne respectant pas les droits de l'autre. Ça deviendrait de la tyrannie. Et ce serait un esclavage. Dans la tyrannie, il n'y a plus d'amour. Il y a uniquement les forces d'un tyran qui s'impose. Il faut comprendre que la miséricorde peut être une fin, tandis que la justice ne peut pas l'être. Vous ne pouvez jamais tout ordonner à la justice, sauf si, au point de vue justice, vous comprenez la justice à l'égard de Dieu. La miséricorde regarde les personnes. La justice regarde les droits des personnes. Et regarder les droits des personnes, c'est nécessaire, c'est bon, mais ce n'est pas aller jusqu'au bout. La personne vaut plus que ses droits. Et comme la personne vaut plus que ses droits, puisqu'elle est le support de ses droits. S'il n'y avait pas de personne, il n'y aurait pas de droit. Alors, par le fait même, la justice qui respecte les droits de l'autre demande d'aller plus loin que la justice. La miséricorde regarde les droits de la personne et cette personne ne veut pas atteindre sa finalité pour telle, telle ou telle raison, en raison de la lutte, en raison de sa misère, en raison des circonstances dans lesquelles elle se trouve. Et la miséricorde est faite pour relever le pauvre et le remettre dans une situation qui soit plus facile pour lui à vivre de l'Évangile. La miséricorde se sert du mal, de la misère de l'autre, pour coopérer avec elle dans ce domaine très précis de sa personne. La miséricorde consiste à enseigner, lui permettre de chercher la vérité. C'est un acte de miséricorde. Enseigner. J'ai pas le droit, si je suis en face d'un pauvre quant à l'intelligence, de ne pas lui donner la lumière. Je n'ai pas le droit de laisser le prochain dans cette misère qui consiste à ne pas avoir la lumière, à rester dans son ignorance. Et j'ai le devoir de l'aider. La miséricorde s'étend au mal plus sensible, plus humain. Au point de vue beauté, au point de vue environnement, au point de vue vie pratique. Je dois Il faut comprendre que la miséricorde va très loin dans ce regard vis-à-vis de la personne. Et que la miséricorde est premièrement personnelle. Il peut y avoir une miséricorde pour le bien-être commun, pour le bien commun d'un pays, pour le bien commun d'une communauté. Mais ce n'est jamais la béatitude de la personne. Ce n'est jamais la béatitude de la miséricorde. La béatitude de la miséricorde touche la personne dans son bien propre de personne, dans son épanouissement personnel. Et c'est en ce sens-là, la béatitude des miséricordieux dépasse la miséricorde qu'on peut, le regard qu'on peut avoir sur l'autre au point de vue de la justice. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Par rapport à Dieu, prendre une attitude de miséricorde vis-à-vis du prochain, c'est s'appauvrir pour recevoir la miséricorde de Dieu. Chaque fois que vous faites miséricorde, vous vous appauvrissez, parce que vous donnez de votre bien pour aider. Cette miséricorde peut aller beaucoup plus loin. Et vous appauvrissant, vous dépouillant de vos biens, il y a un appel vers Dieu. Et donc, il y a un appel pour recevoir la miséricorde de Dieu. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ah, ceci est très important dans la morale chrétienne. C'est de montrer que la première chose qu'on doit regarder, c'est la pureté de notre cœur, pour que nos intentions soient pures. Jésus le dit très nettement quand il montre qu'il n'y a pas d'aliment impur. il montre que c'est ce qui vient de nous, de notre cœur, qui fait que l'action est pure ou impure. Parce que Dieu regarde en premier lieu les intentions de notre vie avant de regarder les résultats. L'homme regarde en premier lieu les résultats. C'est extrêmement visible, ça. Surtout dans dans nos communautés sociales aujourd'hui. Au point de vue social, on regarde en premier lieu les résultats visibles. Et on se dit réaliste parce qu'on regarde ces résultats. C'est pas ça. La réalité première, c'est la béatitude des cœurs purs. C'est d'avoir nos intentions profondes qui soient pures. C'est d'aimer vraiment le prochain dans les miséricordes qu'on fait. On peut faire des miséricordes matérielles sans avoir de cœur pur. Pour que la miséricorde soit vraie, il faut avoir un cœur pur. Il faut que les intentions... Vous voyez, c'est là on voit comment les béatitudes s'enchaînent. Parce que pour faire vraiment miséricorde, il faut un cœur pur. Si vous faites la miséricorde donnant, vous savez bien, on fait miséricorde parce que celui-là peut nous faire miséricorde. Alors on est bon pour lui. Et on lui donne vite, on lui graisse la pâte. Hein. On voit très bien ce que c'est. C'est pas le cœur pur, ça. C'est son intérêt. Donc, il faut, dans la miséricorde, ne pas chercher ses intérêts. Chercher ses intérêts en faisant la miséricorde, c'est pas bien. C'est fausser la miséricorde. Et la béatitude des cœurs purs est sans doute une des béatitudes les plus merveilleuses du chrétien. Quand on va jusqu'au bout de la vie chrétienne, on fait grande attention à la pureté d'intention. On veut que nos intentions soient parfaites, que nos intentions soient limpides, soient vraies. On fait la miséricorde pour l'autre et non pas pour soi. Bienheureux les cœurs purs, regardent la recherche de la vérité pour que l'intelligence puisse vraiment être au service de l'amour, il faut le cœur pur. Autrement, l'intelligence ne peut pas être au service de l'amour si on a peur que nos intentions, qui ne sont pas pures, soient dévoilées. La pureté du cœur est donc quelque chose d'absolument essentiel. Et on voit bien que la pureté du cœur est mise directement en liaison avec la finalité, parce qu'ils verront Dieu. C'est le bonheur. Si on vivait tout le temps dans cette perspective, nous sommes faits pour voir Dieu. Notre cœur serait pur. Notre miséricorde serait limpide. Notre justice est tout. On aurait un cœur tout transformé. Heureux qui font œuvre de paix, parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. Après avoir regardé la pureté du cœur, on voit qu'on peut faire des œuvres de paix. Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui font œuvre de paix dans tous les domaines. Plutôt de mener la division, chercher la paix. Chercher la paix. Alors, il faut chercher la paix dans la vérité. Continuerons. Parce que la béatitude des paix, des pacifiques, est très importante. Elle va avec la recherche de la vérité, de la sagesse.